18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Il est 18h et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info de Radio U. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'amour et d'occupation des lieux de culture. Nous recevrons le collectif d'artistes et techniciens techniciennes occupant la scène nationale du Quartz à Brest. Hein, une des plus de 30, mais vous allez me confirmer ça, Guillaume et Pierrick. Bien plus de 30, on me fait signe des scènes occupées. Bonjour à tous les deux, on discutera avec vous des revendications et des actions.
Salut, bonjour.
Donc plus de 30, c'est ça, hein, tu me disais.
Ouais, je crois qu'on s'approche d'une centaine de salles occupées là sur toute la France.
Salles, théâtres...
Voilà, le lieu de culture, on va dire ça comme ça, ouais. Si ça vous va. Hein. On vous emmènera aussi également à Rennes, dans le quartier du Blône, dans le cadre de la série de reportages de la Corlab. La Corlab, c'est la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. La série de reportages s'appelle L'économie autrement. Vous la découvrez depuis lundi. Et là, c'est Radio Laser qui s'est intéressé à un centre de santé communautaire. Et puis, je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, quand même, on sait jamais, on est le 31 mars, il fait beau, il fait chaud, et on va commencer en parlant d'amour avec Peter Love. Salut Peter.
Salut, ravi d'être là.
Ben ouais, bienvenue dans les studios de Radio U, un studio que tu connais un petit peu quand même, soyons honnêtes. D'ailleurs, c'est pas la première fois que tu passes derrière nos micros et que on se rencontre par ce média radiophonique. Je vous renvoie vers le podcast de la fête de la musique de l'année dernière, à l'époque où on pouvait déjà plus faire grand-chose, mais quand même
un petit peu,
il y avait eu effectivement un petit live. Tu étais venu avec Elliot et Caron. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on salue bien fort. Vous avez sorti l'EP qui s'appelle Upsy, ça va ? Je prononce bien Upsy ?
Non, Upsy. Upsy.
On est d'accord ?
Ouais, parfait.
Sept titres, avant d'en discuter, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire... vous m'excusez, j'ai un peu coupé à la machette. Hein, mais de faire découvrir à nos auditeurs à quoi ça pouvait ressembler, cette EP de Peter Love. Je vous fais écouter ça tranquillement et puis on revient juste après.
Pour ma part, je choisis les reflets. Qu'est-ce qui reste beau ? Qu'est-ce qui nous relie ? Tout ce qui reste trop. Tout ce que les autres m'ont retiré, t'as vu c'est facile. Sauf le matin, sauf le matin. Ça fait longtemps que je me suis pas senti si bien. Est-ce qu'on peut se balader sur le port et faire comme si on n'était pas parti plus loin? Est-ce qu'on peut se poser sur le port et jouer aux cartes sur les marches, boire une bouteille d'alcool fort et éviter que je démarre. Ça fait longtemps que je me suis pas senti si bien. C'est parfait pour demain si on ne parle pas. C'est pas vrai, tout deviendra comme avant, si tu me dis ce qui ne va pas, alors c'est parfait pour demain. Le temps coulait comme du sirop, mais j'ai mal à la gorge. On s'est laissé tomber si tôt, on tenait si bien la corde. Pour rebondir, rien ne tombe comme prévu. Appelle-moi. Merci le soda, attends que le ciel fasse le même. Bien sûr que j'ai envie de toi, bien sûr qu'on va partir le faire. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse du cash, c'est devenu si facile de le perdre. Faut pas que tu effaces les traces, c'est devenu si facile de me perdre.
J'ai mis tout ce que t'aimais sur mon mur, presque tout. Le reste est dans la nature. fait le tour.
Voilà, les multiples extraits. Bon, voilà, tu m'excuses, hein, Peter, d'avoir un peu coupé ça à la machette. ben, est-ce que déjà tu peux nous parler vite fait, enfin nous présenter en tout cas les titres qu'on vient d'entendre, que les auditeurs puissent aller chercher, fouiner sur YouTube s'ils ont envie de les écouter, et toutes les autres plateformes.
Ouais.
Parce que je précise que c'est dispo évidemment sur Deezer, c'est Spotify, ainsi de suite.
Dispo partout. Sur toutes les plateformes de stream.
Du coup, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Est-ce que t'as retenu peut-être pas
Alors, dans l'ordre, j'ai toujours été nul à ce jeu-là, là où faut
reconnaître ses propres titres.
Non, mais dans l'ordre, là, je me souviens plus, mais.
Dans le désordre, on prend quand même.
Ouais.
Je te rassure.
Bah, en gros, c'est un EP 7 titres, avec une intro et 6 chansons, qui sont donc. Composé par Elliot et écrit et interprété par moi-même. C'est beaucoup de chansons qui parlent d'amour, mais pas que avec des sonorités un peu voilà électro, orienté un peu électro, sentimental, voilà. Ouais, que dire de plus
Justement, j'avais une question pour toi là-dessus, parce que forcément, hein, je suis allé fouiller un peu, vu que la tournée médiatique locale, en tout cas, se passe plutôt bien. Dans le Telegram, tu dis que c'est du rap sentimental décomplexé, le tout vitaminé par les sonorités électro.
Ouais.
Est-ce que finalement, c'est pas la définition de la pop moderne ?
Si, carrément. Si, okay. Si, carrément. Mais aujourd'hui, justement, en fait, j'aime trop le rap. On en parlait hier. J'aime trop le rap pour dire que je suis un rappeur.
Mm.
Je pense que justement, là, on s'est tourné vers. Il y a des influences rap toujours parce que c'est la base et c'est la musique que j'aime. Mais je pense que là, on s'est dirigé vers quelque chose de plus pop, un petit peu. Plus pop, plus ouais, c'est ce qu'on appelle de la pop moderne. Ouais, t'as raison. Même si j'aime pas trop à chaque fois essayer de trouver une catégorie dans laquelle nous placer tout ça.
Ce qui est bien, c'est que la pop en fait ça englobe tout.
Ouais, carrément.
Maintenant
le rap c'est de la pop carrément. Enfin, une grosse partie du rap c'est de la pop. C'est la musique la plus écoutée. Dans le monde et qui occupe toutes les premières places des plateformes, etc. Voilà.
Ouais. En tout cas, l'EP, tu le disais, s'ouvre sur une intro.
Ouais.
Et je la trouve hyper intéressante, cette intro. D'ailleurs, j'ai noté quelques petits extraits de ce que la personne dit. Et d'ailleurs, tu pourras peut-être nous en parler de cette personne,
ouais,
un petit peu, d'où vous avez récupéré cet extrait-là. Mais c'est marrant. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme une mise en abîme. Et je vous lis les choses, mais c'est... La pierre veut elle-même devenir quelque chose et je ne peux pas imposer ma volonté à la pierre. Elle va devenir quelque chose. Chaque pierre a un devenir du domaine de l'inconscient.
Ouais.
En fait, c'est la pierre ou le pierre.
Bon, et
on précise aux auditeurs que tu t'appelles Pierre Lamour.
Ouais. Justement, en fait, quand on a écouté, donc la personne qui parle là, c'est Chomo. C'est un artiste français qui est malheureusement décédé. Et en fait. Là, dans cet extrait-là, c'est tiré d'un reportage. C'est tiré d'un reportage qui a été où il se fait interviewer. Un reportage qui est produit par, si je dis pas de conneries, Antoine de Maximi, je crois, c'est celui qui
J'irai dormir chez vous.
Exactement, j'irai dormir près de chez vous. Voilà. Et du coup, j'ai regardé ce reportage-là. Et en fait, dans cet extrait, la première fois que je l'ai entendu, c'était comme une évidence un petit peu. J'avais vraiment l'impression qu'il parlait de moi, et du projet, et d'Eliott, pour différentes raisons. La partie que tu viens de citer, l'extrait là, j'attends pas que la pierre devienne quelque enfin devienne quelque chose, etc.
La pierre veut elle-même devenir quelque chose et je ne peux pas imposer ma volonté à la pierre.
Exactement. En fait, ça m'a rappelé tout de suite la spontanéité aussi du projet. Mm. Parce que finalement, le projet, c'est des maquettes peaufinées. On va dire ça comme ça. On aime bien le dire parce que c'est une réalité. C'est en fait souvent Elliot il faisait les prods en studio et moi j'écrivais en même temps. On maquettait les sons et souvent on gardait d'ailleurs on a souvent gardé des parties des textes enregistrés le jour même et ensuite on venait les améliorer etc. Avec des effets, des bacs et tout ça pour ceux qui connaissent quoi. En fait toute cette spontanéité là, ça nous a parlé et j'ai fait écouter aussi le cet extrait là et enfin j'ai montré le reportage à Elliot et ça lui a tout de suite parlé aussi parce que il y a tout ce côté artisanal aussi mine de rien.
Ouais.
Et non c'était beau en plus il finit l'extrait en disant ils vont se faire des bisous tout seuls, t'inquiète pas. Et
ouais, c'est ça. Il décrit ce qu'il est en train de faire. Enfin, j'imagine. Parce que j'ai pas vu le docu et il dit les deux personnages sont en train de se faire des bisous. Mais ouais. C'est pas moi qui les force, t'inquiète. Ils se feront des bisous tout seuls.
Ouais, bah en fait, c'est un peu de la sculpture qu'on fait aussi. En fait, là, il y a pas la vidéo, mais lui, il est en train de. Il prend une pierre brute, voilà. Il prend une pierre brute et il la taille au hasard. Il sait pas ce qu'il fait en fait. Il sait absolument pas ce qu'il fait. Dans le reportage et finalement ça se transforme en deux personnages qui sont un câlin et des bisous. du coup ça correspondait parfaitement au projet parce que même quand on construit des sons souvent on part un peu je vais pas dire à l'arrache mais on part sans idée fixe en tout cas et ça se transforme au fur et à mesure et ça donne les chansons qui sont sur l'EP quoi.
Voilà. Avant d'expliquer un petit peu pourquoi ça s'appelle Upsy, ouais. Etc. Je vais en profiter que Guillaume et Pierrick soient là pour leur demander ce qu'ils en pensent. En plus, vous avez l'air de vous connaître. Soyons honnêtes avec nos auditeurs. Donc c'est bien comme ça. Il y a un avis extérieur.
Ouais. Et ben moi, ça m'amuse pas mal d'être là avec Pierre parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve là autour de la même table. Mais ouais, on est amis depuis déjà quelques temps. On a travaillé ensemble aussi, on a enregistré des trucs ensemble il y a quelques temps et depuis ils travaillent avec Elliot et ils font en tout cas moi j'adore ce qu'ils font, je trouve ils font de la très bonne musique tous les deux et c'est un beau binôme, ça marche bien.
Ouais, c'est vrai que pendant le petit medley on t'a vu secouer la tête mal à caisser sur certains sons.
Ouais. Je le connais déjà par cœur donc
OK, bon bah c'est cool. Une autre réaction ?
Moi, je découvre, donc.
Ok. Et après, bon, on te demandera dans ce cas-là, après avoir passé un titre en entier, parce que se faire une idée sur un medley, c'est toujours hyper compliqué. Si on revient sur le Upsy, pourquoi Upsy ? Tu dis que ça vient de upcycling, donc recyclage vers le haut, etc. Enfin, le terme anglophone pour, en gros, transformer les choses pour en refaire de nouvelles, etc.
Exactement.
Si je comprends bien le upcycling. Ouais. Et que après vous avez transformé la fin pour Psy.
Ouais.
Ouais. Tu peux expliquer un peu.
On a remplacé le upcycling. Normalement, ça s'écrit avec un C. Mm. Et nous, on a mis un S pour avoir le mot Psy. P-S-Y. Parce que c'est un projet qui est assez introspectif. On a mis beaucoup de nous-mêmes dedans, que ce soit moi ou Elliot, en disant des choses. Pas toujours simple à exprimer, mais au final qui font du bien. Donc toute une démarche un peu d'être chez le psy, tout simplement. Il y avait une démarche un peu comme ça. En tout cas, après chaque chanson, on était soulagé et encore plus soulagé quand c'est sorti. Du coup, c'est vrai qu'il y avait tout ce côté-là qui était important. Et puis c'est un projet introspectif aussi.
Ouais. Du coup, les textes, tu les as écrits allongés sur un canapé et tout, avec Elliot à côté de toi.
Presque, parce que le studio, c'est une petite salle, c'est chez les parents d'Elliot, c'est le studio des enfants du cercle aussi. Et en fait, effectivement, il y a un petit canapé en dehors du studio, et souvent moi je me pose là et j'écris là pendant que Elliot fait la prod, et parce que du coup il y a ouais ça fait un peu psy, et puis on parle beaucoup aussi avec Elliot.
Ouais. J'imagine de tout et de rien.
De tout et de rien, ouais, de trucs cool, de trucs pas cool et tout ça. Et du coup, il y avait aussi cette tout cet aspect-là qu'on avait envie de le rajouter au titre en tout cas.
Et ça marche comment entre vous deux, je sais pas, vous partez toi par exemple, t'as une idée de texte, en tout cas une, peut-être pas le vraiment le texte fini, mais tu lui dis ouais, j'aimerais bien aborder ce sujet-là, parler un peu de ça, lui commence à faire la prod, ça marche comment?
Alors généralement on commence par la prod.
Ouais.
Anciennement j'écrivais beaucoup chez moi, maintenant j'arrive plus à le faire, ou difficilement en tout cas. Sur l'EP là par exemple, il y a qu'une chanson, je crois que j'ai écrit. Alors je peaufine des textes à la maison, mais le tous les débuts de textes, les refrains, etc. je les écris au studio. Et en fait inspiré par la prod en elle-même quoi. Mm. C'est-à-dire que Elliot il commence à produire. On part dans une direction, par exemple, je vais arriver au studio, je vais lui dire, écoute, là, ce serait cool de faire un son plus sonorité électro, mélancolique, voilà. Et puis on part comme ça, on part un peu à l'aveuglette tout le temps en fait. On part tout le temps un peu au feeling de la journée. Parfois ça marche pas, parfois parfois ça fonctionne pas. Mais souvent ça fonctionne quand même, et puis il commence à taffer la prod, et puis moi je lui dis direct si j'aime bien, j'aime pas, ça arrive que j'aime pas, dans ce cas-là on modifie, on part sur autre chose, voilà. Et puis moi je vais écrire en même temps. Souvent en fin de session, j'ai déjà un couplet, un refrain, c'est souvent ce qui se passe, premier couplet, un refrain, et on l'enregistre immédiatement, et de là en fait on fait des modifs. On voit ce qui reste à bosser, ce qu'on peut améliorer aussi sur la prod, et ça se passe comme ça en fait. Et au fur et à mesure, on avance comme ça, au feeling, petit à petit quoi.
Mais c'est marrant que tu décrives ça, parce que quand on écoute l'EP, on se dit ok, il y a un vrai fil conducteur, enfin tout, il y a un enchaînement logique, etc.
Ouais.
Donc c'est vrai que moi, bêtement, je me suis dit, bah, ok, ils sont partis sur voilà, une ligne directrice, et puis après, ils l'ont suivi, quoi.
Non, pas du tout. En fait, si, il y a une ligne directrice, c'est dans les sonorités et ce qu'on voulait apporter. Et même moi, au niveau des textes, en fait. C'est pour ça que le projet, je pense, il est cohérent. C'est parce que aussi, dans beaucoup de projets, c'est des producteurs différents. Et là, il y a qu'un seul producteur, donc déjà de base, ça apporte une certaine cohérence au projet, je pense. Mmh. Et puis non, mais on savait quand même où on voulait aller au niveau des sonorités. On savait que on voulait des sonorités électroniques. On savait qu'on voulait faire de la musique. Nous, on utilise un terme que Elliot et moi on comprend très bien. C'est de la musique dream. Ça veut absolument rien dire,
c'est suffisamment imagé pour
mais,
que.
Mais on... en fait, ouais. Mais en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on va faire un son dream mélancolique. Mm. Et voilà. Et c'est vraiment. Enfin, on sait très bien que ça veut rien dire. On nous a rappelé à l'ordre la dernière fois. On nous a dit limite les gars disaient dreamy. Mais je trouve c'est moche dreamy. Du coup, je continue à dire dream. Mais ouais, en fait, c'était vraiment ça, de la musique, je sais pas, de la musique de festival, qui c'est hyper prétentieux ce que je vais dire, mais qui fait frissonner, tu vois, et voilà, avec de l'émotion quoi, et dire des vrais trucs aussi, ça c'est important.
Ouais. Mais c'est vrai que à l'écoute, moi je reviens sur le mot que t'as dit, hein, bon, pas dream ou dreamy,
ouais.
Mais sur le côté mélancolique,
ouais.
C'est vrai qu'il y a un truc très, alors je sais pas presque le terme, alors je suis hyper mauvais en portugais, mais le saudade, je sais pas comment on le dit, mais ce côté-là qui mélange un petit peu de mélancolie, mais c'est pas tout à fait ça la traduction.
Ouais. Nostalgie un peu quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un mélange des deux, je trouve que ça, justement, on est vraiment dans cette ambiance-là, mm-hmm. Quand on écoute l'EP en entier, et puis c'est hyper poétique. Ouais. J'avais envie de je me permets hein, de lire
ouais,
des extraits de textes. mais j'ai perdu tous les mots, fermé tous les volets, le bitume a recouvert la plage, le sable souffle maintenant sur les autres, c'est parfait pour demain, si on ne parle pas, c'est pas vrai que tout redeviendra comme avant, si tu me dis ce qui ne va pas, alors c'est parfait pour demain. C'est quand même super poétique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le studio, Guillaume et Pierrick, mais voilà, il y a vraiment une dimension aussi hyper poétique dans les textes.
Ouais, c'est. J'attache beaucoup d'importance au texte. Alors là, le morceau parfait pour demain. C'est le seul morceau justement que j'ai écrit chez moi. Les autres, ils sont écrits au stud. Et en fait, j'attache beaucoup d'importance au texte. J'attache beaucoup d'importance aussi aux phrases simples avec du sens. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore les phrases simples qui rentrent dans l'art un petit peu. Tu vois, là, j'ai pas d'exemple en tête. Mais
c'est ça, c'est des phrases simples mais qui sont percutantes. Enfin, vraiment, exactement. Quand on l'écoute, ça résonne un peu dans le cerveau.
Ouais, et puis j'adore imager aussi les choses. Quand je dis le bitume a recouvert la plage, le sable souffle maintenant sur les autres. Voilà, j'aime bien ces images là.
Voilà. Ouais, des images qui transportent. En tout cas, c'est sûr.
J'ai du mal à. C'est dur de parler des textes qu'on écrit, je trouve.
Bah, moi, je peux le dire, vu que je connais pas mal la musique de Peter Love. C'est aussi que Pierre, il écrit quand même depuis des années. Je pense qu'il a une bonne gymnastique. Et moi, je le vois. Comparé à ce qu'il faisait avant et maintenant, c'est clair que, comme tu dis, la poésie là, elle est présente et puis ça coule de sens, quoi. C'est pas, il va pas non plus aller chercher à embrouiller avec des mots compliqués, mais au moins ça a vraiment du sens tout ce qu'il fait et je trouve que ça le représente bien en tout cas.
En tout cas, très très belle EP. Tout à l'heure, tu parlais, c'est un bel hommage en tout cas. Tout à l'heure, tu parlais du côté artisanal. C'est artisanal jusqu'au bout, parce que là, on parle que de la musique, mais il y a pas que ça. Il y a l'EP, il y a des t-shirts, des bières carrément. Le tout fait. Alors là, c'est plus que circuit court, c'est circuit ultra court. Je sais pas comment on appelle ça, mais juste dans le quartier, quoi.
Ouais, à 500 mètres de chez moi et du studio. Du coup, c'était pas voulu, mais en fait, c'était surtout une bonne surprise et c'était cool de se rendre compte qu'on pouvait faire tout ça dans un si petit secteur en fait, et surtout de rencontrer tous ces gens qui sont à 500 mètres de chez nous pour certains et qu'on connaissait pas et qui font des choses trop cool comme de la bière par exemple. Et c'est une grande fierté d'avoir réussi à faire ça, parce que je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait faire des choses localement, qu'il suffisait juste en fait de se bouger, d'aller voir les gens, et en fait les gens ils sont vraiment gentils. Enfin, je veux dire, ça donne de l'espoir un petit peu.
Cette période de merde, tu veux dire?
Ouais, carrément. Non, mais en fait, il y a des bonnes personnes vraiment et qui sont vraiment motivées à faire des projets sans calcul, avec leur caractère et leur façon de faire, leur façon d'être, sans concession, tout ça, et juste pour l'amour et pour la culture ou j'en sais rien, mais en tout cas hyper simplement, et ça c'était beau, et enfin c'est vrai que on est fiers de ça.
Pour faire la transition, et juste avant de faire écouter aux auditeurs le titre parfait pour demain, d'ailleurs tu nous expliqueras pourquoi t'as voulu qu'on diffuse celui-là. On reçoit, vous l'avez compris, Guillaume et Pierrick, pour parler du Quartz qui est occupé comme énormément de lieux de culture en France. Toi, Pierre ou Peter d'ailleurs, je sais même pas comment t'appeler, la situation, ça te préoccupe, j'imagine, aussi. T'es allé faire des tours du côté du Quartz, t'as pas eu le temps?
Si, j'ai été rendre visite à l'équipe qui occupe le Quartz. Bien sûr que ça me préoccupe, parce que on est musicien et puis on aimerait bien défendre notre notre projet sur scène aussi, et pouvoir tout simplement faire vivre notre musique et faire vivre les gens qui bossent pour aussi. Voilà. Et ouais, bien sûr, c'est préoccupant.
Du coup, bientôt un mini concert, quelques titres devant le Quartz.
Peut-être. Pourquoi on ne sait pas. On n'a pas eu la proposition de Peter Love encore, mais voilà, il y a des artistes qui viennent jouer tous les jours, c'est faisable.
C'est tout à fait possible. À 13h tous les jours, il y a une heure publique et en général des artistes qui viennent faire des petites chansons.
Ok.
Ce sera avec plaisir.
Bon bah voilà, le rendez-vous est pris sur Radio U, je vous laisse vous démerder après. Juste avant de passer le titre Parfait pour demain, Peter, pourquoi celui-ci? Je crois qu'il te tient particulièrement à cœur.
Bah c'est le projet qui finalise l'EP, et ça a été pendant longtemps mon morceau préféré aussi de l'EP, parce que je trouve que c'est vraiment c'est juste beau ce qui s'est passé quand on l'a fait avec Elliot. Et quand je l'ai écrit et qu'on l'a écouté, on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose en fait. C'est un peu inexplicable, c'est très bizarre, mais on s'est senti, en fait c'est un des morceaux où quand il était fini, on s'est senti bien, on l'a écouté et on ne s'en lassait pas. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup ce morceau. Il a beaucoup de sens pour moi et pour Elliot aussi.
Ouais. Eh ben, pour les auditeurs de Radio U qui l'ont pas encore écouté, parce que il me semble que c'est déjà passé à la radio, mais on le remet, ça fait toujours du bien.
Ça ne reviendra pas. Je vois bien que tu t'ennuies de devoir parler à ma place. Mais où est la partie qui discute avec vous? Je compte sur quelques sourires pour qu'on ne parle jamais de nous. Bientôt je te laisse de quoi voler. Pardonne-moi d'avoir réparé la glace, mais j'ai perdu tous les mots. Fermez tous les volets, le bitume a recouvert la plage, le sable souffle maintenant sur les autres. C'est parfait pour demain, si on ne parle pas. C'est pas vrai, tout deviendra comme avant, si tu me dis ce qui ne va pas. Alors parfait pour demain. We'll be right back.
Un titre comme ça, on parle pas dessus, hein, on le laisse vraiment jusqu'au bout, parfait pour demain, donc Peter Love. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale de Radio U. Peter Love est toujours avec nous dans le studio, mais on est surtout en compagnie pour cette deuxième interview de Guillaume et Pierrick du collectif d'artistes et techniciens techniciennes occupant la scène nationale du Quartz, évidemment c'est à Brest. C'est occupé depuis un petit moment maintenant sur Radio U. On avait fait un reportage le lendemain de l'occupation. Il s'est passé vraiment pas mal de choses depuis que les lieux sont occupés. Il y a des prises de parole à 13h tous les jours. Il y a des concerts. Il y a eu des tables rondes, etc. Avant de s'intéresser vraiment à la situation brestoise, on peut peut-être refaire un petit point sur le côté national. Il y a plus, on le disait en introduction de l'émission, plus d'une centaine, c'est ça, de lieux de culture occupés.
Ouais, presque une centaine de lieux.
On peut le voir d'ailleurs, il y a un site, ça m'a fait marrer, je suis allé sur sceneweb.fr, il y a une carte interactive et en fait si on dézoome vraiment de très très loin, on s'aperçoit que c'est carrément tout l'hexagone qui est rempli de points d'occupation.
Ouais, c'est un peu la carte météo
des occupations. Et d'ailleurs, si moi je me suis amusé à vraiment dézoomer, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi Saint-Denis de la Réunion, et c'est pas que la France métropolitaine qui est voilà où il y a des lieux de culture qui sont occupés. On va y aller simple. Est-ce que vous pouvez rappeler les revendications, grosso modo? Enfin, je résume, mais vous allez expliquer. Il y a la réforme de l'assurance chômage, la réouverture des lieux de culture, et puis cette fameuse seconde année qui a priori ne sera pas blanche pour les intermittents.
C'est ouais, bah voilà, t'as survolé les grands points. Donc ouais, la réouverture des théâtres et lieux culturels dans le respect des règles sanitaires. Il y a aussi, nous on demande la prolongation de l'année blanche sans rabais, parce que en ce moment il y a aussi une réforme de l'assurance chômage qui risque d'être adoptée au mois de juillet, enfin qui est presque comme déjà adoptée, qui va réduire aussi
les droits
au chômage et
plus de 2 millions de personnes.
Voilà, c'est ça. Et ça concerne pas que les acteurs du spectacle, mais aussi tous les travailleurs précaires. Et nous, ça va nous toucher directement dans notre travail.
Oui, il y avait une formule que j'aimais bien, c'est vous vous battez pour les intermittents du spectacle, mais aussi pour les intermittents de l'emploi.
C'est ça, ouais.
Bah, c'est que du coup, les intermittents du spectacle, c'est 120 000 personnes à peu près qui ont droit à ce statut. Mmh. Régime, mais il y a 260 000 personnes qui cotisent à ce statut, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cotisent mais qui n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas fait assez d'heures ou voilà. Mais c'est, je sais plus,
2 300 000 intermittents de l'emploi
et 1 540 000 acteurs de la culture. Et du coup, les intermittents, voilà, c'est les techniciens, les artistes. Production, tout ça, mais il y a tout, je sais pas moi, tous les mecs de sécu, les gens qui font les billetteries, le bar, enfin tous ces gens qui sont autour, qui font aussi que un événement peut avoir lieu, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que souvent on oublie le nombre de personnes qui sont impliquées en fait sur peu importe l'événement culturel. Ça marche, il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc je le disais, vous organisez pas mal de choses, hein, finalement c'est pas occupé juste pour occuper, sinon ça perd un peu de son charme. Hier il y avait une table ronde avec plusieurs acteurs de la culture, la liste est assez longue, c'est assez impressionnant. Je vais peut-être me lancer dedans quand même parce que ça vaut le coup de savoir qu'il y avait donc Yann Otret des Petites Folies, Pauline Bourda du festival Lilophone, Olivier Cochon, Diogène Production, Antoine de, et là j'ai toujours du mal à dire son nom, de Brune, et c'est pareil, j'ai du mal à dire le nom de la salle, Renard Punz, voilà, certains disent Renard Punz, mais bon, à chacun sa prononciation. Igor Garde, festival de Cornouailles, Alain Leloup de Festidreuse, Yannick Martin de la Carène, Olivier Morvan, festival de la Mer, donc ça c'est à Landinvez, Eddy Pierres de Panorama, Frédéric Pinard de l'Archipel, ça c'est à Fouenant, Marc Ribette d'Arsenal Productions, Maïté Rivière du Quartz, Gilda Rivoilen de Astro, Jérôme Tréorel des Vieilles Charrues et Sylvain Turpin d'Audiolite. Ça en faisait du beau monde. Qu'est-ce que vous retirez là, des discussions et sur quoi ça a porté?
Ben, du coup, d'abord, on a demandé à chaque personne son ressenti et puis comment, dans quelle situation il se trouve en ce moment. Chaque personne a expliqué ses difficultés et puis son comment il voyait un peu le futur. Et c'était pas très
pas joyeux comme discussion.
C'est un peu compliqué de prévoir la suite parce que tout le monde est complètement dans le flou à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette table ronde, c'est déjà ça faisait plaisir de voir la mobilisation qu'il y a eu de tous ces partenaires là de notre travail habituel. Et surtout eux-mêmes entre eux qui devaient déjà se sentir un peu dans une situation un peu hasardeuse et bloqués dans leur solitude parce que forcément on n'a plus de lien depuis un an, que ce soit avec les salariés ou enfin les artistes, et eux-mêmes ont pu échanger sur leur situation
compliqué, personnel,
voilà. Ouais. Et je pense que ça a permis de mettre tout ça sur la table et pas mal d'échanges. Et ça a duré assez longtemps,
ouais,
hein, quand même.
Ça a duré, ouais, 2 heures.
2 heures
mais
et demie.
Mais aussi,
même, ouais.
c'est vraiment tous les lieux de culture sont dans le même bateau. C'est-à-dire que ce soit les festivals indépendants, les producteurs indépendants, privés, les associations, les scènes nationales, tout le monde est dans le même bateau, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune perspective pour l'instant. On a juste ce fameux cadre pour cet été des festivals à 5000, assis, distanciés, sans restauration, sans bar. Bon, ils le disent tous, de toute façon, ça marchera pas. Et sinon,
effectivement, ça a l'air d'être une grosse blague, hein, quand même, cette histoire. Il y a pas longtemps, j'interviewais un artiste anglais qui s'appelle Nick Tyson, qui fait partie du groupe Gentleman's Dub Club. Et du coup, lui me racontait la situation en Angleterre. Je lui explique ce qui est pour l'instant autorisé en France. Le mec s'est carrément marré, disant c'est un foutage de gueule. Ça ressemble pas à un festival.
Ouais. Et puis c'est vrai qu'en Angleterre, déjà, ils ont un calendrier, donc ils savent que à la fin du mois de juin, ils vont pouvoir repartir faire des choses. Alors je sais pas dans quelles conditions, je sais pas si ce sera avec des masques ou pas, quoi que ce soit. Mais il y a plusieurs pays. Ben là, le week-end dernier en Espagne, il y a eu un concert test de 5000 personnes
à Barcelone,
ouais, je crois, ou Madrid, je sais plus. Un concert test de 5000 personnes dans une salle. Et le week-end d'avant en Hollande, ils ont fait un festival test sans distanciation, sans masque, 1500 personnes, genre festival électro, quoi, en extérieur. Et en France, on sait même pas quand est-ce qu'il y aura un concert test, en fait. Et c'est vrai que on sent qu'il y a vraiment une volonté de trouver des solutions pour pouvoir rouvrir
pas de volonté du gouvernement, parce que les acteurs de la culture depuis le mois d'août déjà ont réfléchi à des protocoles qui pourraient se mettre en place, protocoles sanitaires pour la réouverture des salles, mais après, il n'y a aucune perspective pour l'instant concernant ça, la reprise d'activité, donc c'est un peu compliqué.
Et puis en plus, il y a bien des gens qui savent gérer du public, c'est-à-dire vous asseyez ici, il y a un sens de circulation. Enfin, pour moi, c'est vraiment les organisateurs de spectacles, quoi. Ils savent mieux le faire que dans n'importe quelle grande surface où les gens ils vont n'importe où, ils font n'importe quoi. Enfin,
on fait partie des professionnels de la réception, quoi, donc. Les supermarchés, c'est un peu open, alors que nous, dans la plupart, en tout cas, les concerts assis, il y a quand même des gens qui sont là pour placer les gens dans leurs allées. Enfin, et le protocole sanitaire, il peut être respecté sans souci, contrairement à d'autres lieux où les gens ont accès.
C'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent, et d'ailleurs il me semble qu'il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps pour dire il y a quand même beaucoup moins de risques de contamination dans un théâtre où effectivement il y a tout un protocole sanitaire. Alors après, chaque protocole est différent, mais là en l'occurrence c'était une place sur deux ou sur trois, je sais plus, désinfection des mains, masque, etc. Évidemment que c'est moins dangereux entre guillemets que d'aller dans un supermarché.
Et puis surtout que, je veux rajouter un truc, c'est que à la fin de l'été dernière, en septembre-octobre,
Il y a des concerts qui sont passés en salle et ça se passe. Enfin, moi, j'ai fait quelques concerts en salle et ça se passait hyper bien. Le public était hyper réceptif, respectait vraiment les règles. Et en fait, quand il y a eu le deuxième confinement, et c'est le 15 décembre, je crois, où ils disaient oui, on va rouvrir, et qu'en fait, ils ont dit non, on rouvre pas. Clairement, pour moi, c'était un choix politique parce que vraiment, ça marchait. Pour moi, ça marchait. Voilà.
Et du coup, là, faire des petits concerts en extérieur, devant le Quartz, par exemple, c'est aussi une manière de montrer que, c'est bon, si c'est dehors avec une distance, etc., il va pas y avoir un cluster qui va se former. C'est aussi ça l'idée.
Après, moi, je tiens à rappeler que, par exemple, les actions qu'on fait sur le Quartz à 13h, c'est pas, on le vend pas comme un concert, c'est plutôt un espace libre. À chacun pour exprimer ce qu'il ressent sur la situation et tout ce qui se passe en ce moment. Et après, forcément, on fait appel à des artistes parce que dans le carnet d'adresse de tous les occupants, on imagine bien qu'il y a beaucoup d'artistes, que ce soit musiciens ou autres. Du coup, ils viennent participer à ça à 13h où on a un moment de parole libre, public, sur le parvis.
Et même des fois, ça arrive de donner le micro à quelqu'un qui arrive et je peux faire une petite chanson, allez, vas-y.
C'est pas toujours, mais bon.
Enfin, ça peut arriver, quoi. Enfin, voilà, c'est un espace ouvert, mais on a des noms, on a qui se mettent et puis.
Oui, en même temps, c'est ça, d'être un collectif d'artistes et de techniciens et techniciennes. Forcément, il y a des gens, leur manière de s'exprimer, c'est une manière artistique, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, à 13h, il y avait une agora spéciale slam, etc. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Ou alors, c'est ce qui était prévu et ça s'est pas passé du tout comme ça?
Si, ça s'est passé. Après,
On
n'était pas forcément présents à ce moment-là.
On est beaucoup à tourner, en fait, et c'est vrai que du coup, des fois, on ne sait pas trop. Alors, je sais qu'il y a eu un.
Ils ont tourné un clip, effectivement, pour un morceau de slam. Donc, moi, je suis passé devant, mais j'aurais même pas le nom.
J'imagine que si on suit, comme ça, je fais la promo en même temps, la page Facebook Quartz Occupé, etc.
Ah, bien sûr.
On pourra.
C'était.
Des infos.
Claire,
les infos sont relayées dessus.
Ouais. C'était Slamity Jane.
Slamity Jane,
ouais, qui faisait une performance.
La magie de la technologie, on a l'info en direct, c'est beau. Il y a une semaine, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté, les occupants du théâtre de Bordeaux se sont fait virer, et puis pas dans la douceur des informations qui sont sorties. A priori, enfin en tout cas moi de ce que j'ai vu, c'est le premier et le seul lieu de culture où ça s'est passé comme ça. Déjà, est-ce que vous confirmez?
Oui.
Et comment on peut expliquer comment vous réagissez à ça?
On
n'a pas énormément abordé le sujet, on en a parlé rapidement. Après, moi j'étais un peu étonné parce que ça s'est passé jeudi matin, si je dis pas de bêtises, dans la journée de jeudi.
Ouais, c'est ça, je crois qu'ils ont eu la notification mercredi soir.
J'étais à Bordeaux le week-end dernier et j'envisageais de peut-être passer leur faire un coucou et du coup. Je me suis un peu fait couper l'herbe sous le pied, mais c'est vrai que donc là après je sais pas, peut-être que ça rentre aussi dans toute la partie politique sur la ville de Bordeaux.
C'est assez politique, je pense. Comme décision.
J'imagine. Mais ce qui est étonnant, c'est que le maire de Bordeaux, c'est plus Alain Juppé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est d'Europe Écologie des Verts normalement. Donc bref, c'est placé. Au contraire, ici, vous avez pas mal de soutien. La page Facebook, elle est suivie par plus de 2000 personnes. Enfin, j'ai vérifié ce matin, ça a peut-être grimpé et bondi à 3000, mais ça m'étonnerait. Il y a une cagnotte, il y a des gens qui viennent filer des coups de main. On a vu Olivier Libert, par exemple, qui est venu faire une vente de plats. Ça met du baume au cœur, ça.
Ouais, d'ailleurs, vu que t'en parles, du coup, il y a énormément de gens qui nous ramène de la nourriture, des choses en fait. Et d'ailleurs, du coup, je tenais à remercier tous les gens qui viennent spontanément comme ça et qui nous ramènent des petites choses ou des choses, des grandes choses. Enfin, et du coup, ça fait vraiment hyper chaud au cœur, quoi. Enfin, vraiment, je voulais remercier tous les gens qui.
C'est important pour nous de voir le soutien des autres, même s'ils sont pas forcément acteurs de la scène culturelle, mais en tout cas.
Et aussi, c'est tous les gens nous disent, on vient vous amener quelque chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous travaillez pour qu'on puisse retourner en concert. Mmh. En gros, mmh. En fait, les gens, ils en peuvent plus, ils veulent retourner en concert. Et ça se sent, en fait, quoi. Que...
Ouais, c'est ça. Ils sont clairement pas là pour la charité. Ils sont là pour vous aider.
Ouais, et pour soutenir ce mouvement, voilà, pour revivre leur passion. Enfin, voilà.
Toujours sur le soutien, vous êtes clairement soutenu par le Quartz, si j'ai bien compris. En tout cas, c'était le cas le soir de l'occupation.
On est toujours.
Qu'en est-il de la municipalité? Ben, vous avez un soutien officiel,
tacite, bien sûr,
De monsieur
Reza Salami.
Reza Salami, ouais, qui est adjoint à la culture, avec qui on est en contact, et qui, à chaque fois, nous propose de son aide si on a besoin pour organiser des événements ou des choses.
Et du coup, de leur côté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour peser aussi
Visiblement, à part nous soutenir et peut-être nous aider à faire quelques démarches sur la ville de Brest, ils peuvent pas faire grand chose au point national, parce que là on est quand même sur une lutte nationale, c'est pas juste local. Donc après, eux, on sait qu'ils sont là, ils peuvent nous aider dans certaines démarches, mais concrètement, pas grand chose.
Ouais, concrètement, malheureusement, vous pouvez pas trop compter sur la politique locale pour peser à l'échelon national.
Vu que là, par exemple, du coup, il y a comme une coordination nationale qui est en train de se faire. Il y a tous les lieux qui communiquent. Sur la Bretagne, on est en on essaye de faire une coordination régionale aussi. Et du coup, surtout que la Bretagne, c'est quand même une région hyper active au niveau culturel, festival et tout ça. Je pense que ça peut peut-être quand même peut avoir des leviers, quoi. Ouais. On peut peut-être trouver des leviers pour que ça remonte plus haut, la Bretagne, c'est quand même une région,
une terre de festival,
terre de festival,
ouais, et pas que de festival, terre de culture,
terre de culture, et puis court, de hyper diverse en plus, quoi.
Dernière petite question, parce que le temps file, là, je suis en train de me rendre compte de ça, parce que c'est très agréable de discuter avec vous, du coup, j'avais pas trop regardé. Comment on peut vous aider? Justement, vous dites que le soutien, ça vous touche beaucoup et que c'est important. Comment, je sais pas, une personne lambda, un auditeur, là, qui est en train de nous écouter, peut vous aider? Il y a la cagnotte, mais il y a peut-être aussi juste passer vous voir, non?
De toutes les manières, que ce soit juste pour venir nous dire qu'il nous soutient. Ou après, s'ils veulent nous amener des choses à manger, à boire, peu importe, ou faire un peu de musique, prendre la parole à 13h, ça c'est du soutien aussi, parce que c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué de tenir le micro toujours à 13h, donc on aime bien que l'initiative vienne aussi des autres, et c'est important pour nous que le micro soit tenu et que les gens disent ce qu'ils pensent devant le Quartz, quoi.
Eh ben merci beaucoup à tous les deux. On espère finalement tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de partir le plus vite possible du Quartz, parce que ça veut dire que tu vas revenir.
Ouais, ça serait bien, parce qu'apparemment on est parti quand même dans une lutte qui risque de durer. Voilà.
Et on n'est pas prêt de s'arrêter.
Ouais, ouais.
C'est sûr, mais c'est tout le malheur qu'on vous souhaite, c'est que vous puissiez sortir du Quartz le plus vite possible et que nous on puisse retourner dans des lieux de culture. On écoute Loïc Desplanques avec le titre La classe moyenne, et puis on revient juste après pour la dernière partie de l'émission.
Au milieu de la middle class, tranquille, peinard dans la masse, dans le milieu du bas du haut du panier, en plein milieu bien entouré, loin de la crème des hautes sphères, du gratin de la fine fleur, des petits fours et des affaires, mais tout près d'un jambon beurre. C'est la classe moyenne, pas mal, mais peut mieux faire. Ouais, la classe moyenne, standard, très ordinaire. Ensemble, marchons. Des atouts mal exploités, de grosses lacunes à combler, certainement des qualités potentielles à développer. Un c'est moins, un 9 sur 20, un niveau somme toute moyen, insuffisant mais à peine,
tout juste à la traîne. J'ai la classe moyenne. Passable, mais peut mieux faire. Ouais, la classe moyenne. Normal, sans commentaire. Et parfois le samedi soir, quand la nuit tout le monde est gris, on se refait le monde au comptoir avec quelques bons amis. Là pendant un court instant, nous sommes tous bourrés de talent, rois de ceux qui ne sont rien et qui n'en pensent pas moins. On a la classe moyenne, pas mal mais peut mieux faire. Ouais la classe moyenne, standard, très ordinaire. On a la classe moyenne, passable mais peut mieux faire. Ouais la classe moyenne, normal sans commentaire. Ensemble.
Vous êtes toujours à l'écoute du 101.1 de Radio U. Vous écoutez, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'information. On a reçu Peter Love en première partie d'émission pour son EP Psy. On était également avec Pierrick et Guillaume du collectif des artistes et techniciens-techniciennes qui occupent actuellement le Quartz. Et chose promise, chose due, on vous emmène à Rennes maintenant. L'économie autrement, en avance sur son temps et en partenariat avec le SEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires organisée par Ascoria, école des métiers et du social, vous emmène à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, plus solidaire, plus éthique et plus humaine. Le 3 novembre, les habitants du quartier du Blône à Rennes étaient invités à venir construire le projet de centre de santé communautaire du quartier porté par 5 femmes professionnelles de la santé. Ils pourront répondre ils pouvaient répondre aussi à leurs interrogations, notamment sur le terme communauté qui est pas toujours à la mode.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Des questions à poser, ça pourrait être comment vous souhaitez vous impliquer ou comment vous souhaiteriez que les habitants s'impliquent dans le projet. Et puis la question de l'adhésion. Qui pourrait adhérer à l'association, qu'est-ce que ça veut dire être adhérent de l'association? Ça, je les vois un peu plus comme des relances, peut-être. Faudrait qu'il y ait qu'une seule question.
Ouais.
Parce que sinon, ça va partir un peu dans tous les sens. Ouais. Et puis que chaque groupe puisse voir ce qu'a noté le groupe précédent, puis compléter, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est important, je pense, de faire une intro. Une intro sur le centre de santé communautaire, il est associatif, une association, ouais. C'est ça, ça veut dire qu'il y a des salariés, ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration, ça veut dire que dans le conseil d'administration, ouais. Il y a tel et tel type de personnes, donc les habitants, est-ce qu'il y a des salariés, est-ce que c'est les professionnels, mais les professionnels c'est qui, faire un petit rappel sur le statut associatif, ouais. Ce qui n'est pas forcément connu de tous et toutes.
Un centre de santé communautaire, le mot peut faire peur également. Est-ce que vous l'observez quand vous présentez le projet? Parfois, il y a des interrogations autour de cette notion.
Oui, on a eu beaucoup de remarques sur ce terme de communautaire. Des remarques que nous ont remontées aussi des autres centres de santé communautaires avec qui on a pu échanger. Après, je pense que c'est vraiment le terme. Faut pas prendre le terme communautaire tout seul. Faut vraiment prendre le terme de santé communautaire. Pour moi, ça signifie vraiment réfléchir à la santé à l'échelle d'un territoire, d'un quartier, en l'occurrence, celui du Blône. Ça signifie pour moi prendre en charge la santé dans une approche globale. Se dire que la santé, c'est pas juste ne pas avoir de maladie, c'est aussi se sentir en bonne santé, c'est aussi avoir l'accès à un logement décent, à une nourriture correcte, à la culture, etc. Et que c'est un tout. Et puis, dans la santé communautaire, on sous-entend aussi beaucoup la participation des habitants. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de leurs besoins, qu'on réfléchit ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble.
Mais vous êtes dans une démarche qui peut détonner, j'imagine, chez vos confrères et consoeurs libéraux. Ça étonne parfois quand vous parlez de ce parcours-là.
Alors on a rencontré probablement pas tous, parce qu'il y a quand même du monde, c'est un grand quartier, mais on a rencontré quand même beaucoup de professionnels des secteurs du secteur social ou des secteurs de la santé sur le quartier. Effectivement, ce sont des termes qu'ils connaissaient pas forcément, mais en fait en discutant, en expliquant, c'est plutôt bien compris et puis bien accepté. Bon, après il faut qu'on continue les échanges.
Ce reportage a été réalisé par la CorLab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
Et avant de refermer ce C'est vous qui le dites, on rappelle les invités qui étaient avec nous et qu'on remercie d'ailleurs d'être toujours dans le studio.
Merci.
Peter Love, où est-ce qu'on peut retrouver ton EP Upsy?
C'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, tout ça, sur YouTube aussi, sur la chaîne Peter Love. Et sinon, pour choper les versions physiques des packs, c'est sur Instagram, Peter Love, Pierre Lamour.
Et faut se dépêcher, il y en a plus beaucoup.
Il y en a plus beaucoup, non.
Ok. Eh ben merci et surtout allez écouter, c'est vraiment un excellent EP. Guillaume Pierrick du collectif des artistes et techniciens techniciennes qui occupe actuellement le Quartz, une annonce à passer, c'est vendredi prochain.
Oui, c'est ça, vendredi, il va y avoir une action il va y avoir une action Place de la Liberté à 12h30 où en fait, on va essayer de montrer comment on va mettre des chaises et puis montrer ce que sera la distanciation sociale d'un concert et pour que les gens se rendent compte que un concert assis distancié comme ils veulent faire c'est pas possible.
C'est absurde, tu veux dire?
Absurde, voilà. Si c'est possible, okay. Pardon, mais absurde. Pardon, excuse-moi.
Bon, eh ben, merci beaucoup. Vous, on vous suit, si on veut suivre l'actualité un petit peu, c'est Facebook, notamment la page Le Quartz Occupé, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus, enfin à tous les trois, du coup, avec Peter. Longue vie à ton projet, Peter, et puis, en fait, au contraire, moins longue vie à vous, en tout cas en tant qu'occupation, et on espère que les lieux de culture vont rouvrir très vite. Eh bien, bonne soirée sur Radio U, le 101.1. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un autre C'est vous qui le dites.
Merci.
Merci. Bisous.